Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi tes spécialités? Cette semaine, on a reçu Dr Vézina qui est hémato-oncologue au Children à McGill.
Ouais, puis si comme moi, vous savez pas vraiment c'était quoi ce domaine-là, ben sachez qu'elle explique avec brio, elle parle de comment qu'elle fait à la fois le diagnostic, qu'elle va aller dans le laboratoire elle-même regarder les petites plaques, après ça appliquer les traitements, puis qu'elle crée un lien thérapeutique avec ses patients puis les familles qui est vraiment unique dans cette spécialité-là. Donc on vous le suggère à l'épisode. Bonne écoute!
Bon épisode.
Donc avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins, donc n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits, donc on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer, ça vaut la peine. Parfait, c'est parti. Donc, merci beaucoup, Dr Vézina, d'être venu nous voir aujourd'hui. On l'apprécie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et nous, souvent, comment on aime ça commencer? On aime ça reculer là, au début. Qu'est-ce que vous avez toujours su depuis que vous êtes jeune que vous vouliez aller en médecine?
En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. C'était ça comme ma passion. J'ai toujours adoré m'occuper des enfants depuis que je suis jeune. Et puis, je ne sais pas comment c'est venu trop, mais j'étais comme assez jeune. Je me rappelle que quelqu'un m'avait dit « Tu devrais être docteur pour les enfants ». Puis ça m'avait comme resté en tête. Puis, ben, comme que ça avait de la facilité à l'école, puis j'avais décidé, pourquoi pas, on va essayer de rentrer en médecine. Puis ça a fonctionné. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai continué à garder en tête que je voulais travailler avec des enfants. Puis j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en pédiatrie puis de faire qu'est-ce que je veux. Fait que ben, c'était vraiment mon objectif premier, je pense, initialement.
Donc, vous êtes rentrée directement du cégep.
Oui, oui, vraiment toute jeune.
Ouais. À quelle université?
J'étais à l'Université Laval.
OK.
Moi, je restais à Trois-Rivières, fait que j'avais comme un peu les options dans ce temps-là. On ne peut pas le faire à Trois-Rivières, là, fait que j'étais comme dans le milieu de tout, mais j'avais de la famille à Québec, fait qu'on a décidé, j'ai décidé d'aller à Québec.
Puis, est-ce qu'il y a des moments, parlant de votre médecine, que vous avez été un peu ébranlé à « Oh, peut-être que finalement, je ne vais pas faire la pédiatrie » ou c'était clair, set dans le béton?
Plutôt quand j'ai vu comment de personnes voulaient en faire.
Ouais, hein?
On dirait que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi populaire. Puis je suis un peu rentrée en médecine de façon très innocente. Là, c'est ça que je... Même que je me rappelle de quand, juste avant de commencer l'externat, ils nous avaient donné un agenda. Puis ils avaient dit, bon, c'est pratique cet agenda-là parce que les fins de semaine, puis les soirs, pour les soirs, les fins de semaine, vous allez travailler. Je suis comme, ah! Travailler les soirs, j'en travaille les fins de semaine. C'était comme, c'était une nouveauté. T'sais, pour moi, le docteur, il travaillait au coin de la rue, dans sa clinique, il faisait des petites affaires. Fait que j'étais comme rentrée un peu de façon innocente. Puis je me suis dit, oh, oui, je vais faire ça, mais sans trop avoir vraiment poussé avant ce que je voulais faire. Puis c'est comme quand je disais, ah, moi, je vais faire la pédiatrie. Ah, moi aussi. Ah, OK.
Oh.
Puis il y a comment une place dans ce programme-là que là, j'ai comme un peu dit, ouais, peut-être que je devrais passer à faire d'autres choses. Ça sera peut-être pas si facile que ça, finalement faire ça, mais non, j'ai gardé quand même ça en tête, puis j'ai appliqué, puis j'avais eu de la chance et pas de chance, c'était pas le CARMS dans ce temps-là, donc on était sur des listes d'attente, puis on savait on était où, donc à Québec, j'étais deuxième sur la liste d'attente, fait que j'avais pas eu de place, il y a une place qui s'est libérée, fait que ça va arrêter à moi, mais à Sherbrooke, j'avais eu une place, fait que je suis partie de Québec pour aller à Sherbrooke, puis j'avais de ma résidence là-bas.
Puis comment vous êtes démarquée pour pouvoir rentrer, parce que si vous venez de dire que c'était vraiment contingenté, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre médecine?
Pas grand-chose, je dirais. Je pense que ça a changé beaucoup. Pourtant, je me sens pas si vieille, mais ça a quand même changé beaucoup de par rapport à quand moi j'étais là versus qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je vois les gens qui font plein de projets de recherche, qui m'envoient des emails parce qu'ils veulent faire des projets puis essayer de monter un super bon dossier pour leur application. En fait, je pense que je suis juste restée moi-même. Je suis quelqu'un qui est assez souriante, de bonne humeur, puis les gens je pense qu'on appréciait comme plus mon attitude que vraiment, je dirais, tout un autre bagage que j'aurais pu amener. Donc, j'ai pas fait grand-chose de vraiment spécial, mais je pense que dans tous les stages que je faisais, bien, je lisais beaucoup avant d'aller. J'arrivais préparée, puis en pédiatrie, c'était la même affaire. Tu sais, j'arrivais, j'étais préparée, je savais les diagnostics différentiels, puis tu sais, seulement, je pense que les patrons, ils disaient « Ah oui, tu sais, ils attendaient beaucoup pour une étudiante, pour une externe. » Fait que, tu sais, ça, toujours, je pense, ce côté-là qui m'a peut-être plus démarqué, le fait d'arriver préparé pour mes stages, puis de le lire là-dessus, puis le soir, d'arriver, puis dire « OK, j'ai eu, tu sais, tel cas, j'ai lu, je lisais un peu en parallèle pour pouvoir être renseignée pour le lendemain. » Puis ça a toujours fait que finalement mes évaluations étaient bonnes. Les gens qui étaient sur les comités de sélection étaient ces personnes-là qui m'avaient évalué. Mm-hmm. Fait que tout ça a fait que finalement, je pense que ça a facilité les choses.
Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, genre les gens ils se concentrent vraiment sur l'extracurriculaire, que parfois ils oublient un peu l'aspect de clinique, qui je pense super important aussi. Là. Parce que finalement, en résidence, les patrons se font souvent dire qu'ils choisissent avec qui ils veulent travailler.
Exactement, exactement. T'sais, c'est comme un collègue pour quelques années. Mm-hmm. Je pense que l'important, c'est, oui, c'est sûr que faut être quelqu'un de compétent, mais si c'est quelqu'un avec qui tu sens qu'il va pas t'entendre, ça fonctionnera pas vraiment plus.
C'est clair. Puis c'est quand dans votre parcours que vous avez réalisé que l'hémato-onco, particulièrement, ça vous intéressait?
Donc, je dirais c'est vraiment quand j'ai fait mon stage d'hémato, parce que quand on commence en pédiatrie, les premiers stages, c'est beaucoup NICU, justement, le soin intensif. Mmh. Tu sais, pour être à l'aise sur les gardes, il faut que tu aies vu des bébés, que tu sois capable d'intuber, de faire ces choses-là. Fait que pour la première année, tu te concentres vraiment plus sur vraiment soins intensifs néonataux, pédiatrie de base, là, étage et tout ça. Puis j'aimais, moi, le côté hospitalier. Tu sais, j'aime peut-être un peu moins quand même le côté soins intensifs, urgence, je suis moins de ce côté-là, mais le côté s'occuper des patients à l'hôpital, c'est comme plus mon genre. Puis quand j'ai fait le stage d'hématologie, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'était comment la relation que le médecin elle avait avec ses patients. Donc moi, c'est sûr que c'était un petit milieu. J'étais à Sherbrooke, donc il y avait juste une hématologue qui était là. Fait que ses patients, elle les connaissait comme le... vraiment de A à Z, là, tu sais, elle savait toute leur famille, elle les connaissait super proches. Puis quand j'étais là, on a eu je sais pas dire la chance parce que c'est pas la chance, mais l'occasion d'annoncer une rechute à une famille. Puis j'ai vraiment comme toute vue, tu sais, l'ampleur puis l'importance qu'elle avait dans les soins de cet enfant-là. Puis j'ai vraiment dit, ah, c'est ce genre de médecine-là que je veux faire. Mm. C'est une médecine proche des familles, c'est une médecine... Oui, c'est pas toujours facile parce que tu as des diagnostics à annoncer qui sont pas toujours faciles, mais en même temps... on n'a pas 3000 patients. Mes patients, je les connais, puis j'ai l'impression que c'est cette relation-là, moi, avec mes patients que je cherchais, mmh. puis c'est vraiment pour ça que j'étais initialement intéressée par cette spécialité-là. Mmh. Puis j'ai toujours aimé l'hématologie aussi, quand on a fait les cours à l'université sur l'hématologie, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, donc j'étais chance de pouvoir combiner les deux. Puis aussi, je dirais, l'autre proportion que j'ai réalisée, c'est qu'en faisant pédiatrie générale, il y avait beaucoup de bureaux. Il y a quand même, tu sais, l'hospitalisation, mais il y a beaucoup de bureaux. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui m'intéressait moins aussi. Fait que moi, avoir un poste dans un hôpital, c'était plus quelque chose qui m'intéressait. Fait que ça me permettait de faire ça aussi, parce qu'on ne trouve pas des hémato-oncologues pédiatres dans une clinique pédiatrique au coin de la rue.
J'ai souvent l'impression que l'hématologie, c'est un domaine qui, quand même, plus complexe, plus... je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il est plus nébuleux pour beaucoup de médecins en tant que tel. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression parfois que c'est pas assez compris par les autres gens à l'hôpital?
Moi, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en stage avec nous qui trouvent que la formation qu'ils ont en hémato est limitée. Je sais pas, mm-hmm. parce que j'ai pas fait mon cours à McGill, c'est difficile de comparer. Mm-hmm. Mais comme pour interpréter une formule sanguine, les résultats, les diagnostics différentiels d'une anémie microcytaire, diagnostics différentiels d'une thrombopénie. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça très bien, puis peut-être pas beaucoup de gens qui sont intéressés non plus, je sais pas, à le savoir. Mais je trouve que c'est tellement quelque chose de logique, puis tu sais, d'algorithme, puis que quand tu sais une chose, ça tout déboule, mm-hmm. que pour moi, c'est pas nébuleux. Puis en fait, les formules sanguines, le monde en demande à tous les jours. T'sais, comme médecin, ouais. on en demande tout le mm-hmm. temps. Puis je pense, malheureusement, que c'est pas assez enseigné parce qu'on a tellement d'appels de pédiatres ou de médecins en communauté qui reçoivent des résultats puis qui sont embêtés sur certains résultats qu'ils voient. Donc, je pense que ça pourrait avantage être mieux enseigné peut-être et peut-être mm-hmm. plus compris. Parce qu'une fois que c'est compris, je pense que c'est pas si nébuleux.
C'est très logique, il faut juste comprendre la logique.
Exactement.
C'est vrai que là, je vous entends dire ça, puis c'est dans la formule sanguine, il y a comme tous les différentiels en bas, là, puis la moitié des valeurs, je saurais même pas comment faire. Là, c'est vrai, puis ça fait un an qu'on fait des stages, fait que clairement que, ouais, on aurait avantage à savoir un peu plus. Là.
Ouais, puis tu sais, comme il y a des chiffres qu'on ignore totalement dans une formule sanguine, qu'on passe à côté, tu sais, qu'on se dit même pas que c'est important, mais que ça a vraiment une importance quand tu fais ton diagnostic différentiel, parce que ça va t'amener d'un côté ou de l'autre.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis la partie oncologie, mettons, juste, je me dirais, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi un peu la combinaison des deux, tu sais, est-ce que c'est vraiment des conditions séparées? Est-ce que quelqu'un pourrait faire juste hématologie, juste oncologie, ou c'est souvent mis ensemble, mettons?
Fait que c'est différent pour l'adulte de pour l'enfant. Donc, l'adulte, ils font médecine interne, et après ça, ils font soit oncologie ou hémato, puis ils peuvent faire une année supplémentaire dans ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, une année supplémentaire en hémato si tu as fait onco, une année supplémentaire onco si tu as fait hémato. Puis la plupart des centres qui ne sont pas dans les gros centres urbains vont demander que les gens soient formés dans les deux. Mais tu peux rester en centre urbain puis avoir fait juste de l'hémato, juste de l'onco. Pour la pédiatrie, c'est différent. Donc, on fait notre formation en pédiatrie, puis après ça, la formation supplémentaire est en hémato-onco. Donc, on fait les deux en même temps. Donc, c'est 3 ans d'hématologie et d'oncologie.
Okay, 3 ans. Fait
que c'est vraiment... Donc, moi, c'était 3 ans de pédiatrie, mais je pense que ça va changer pour 4 ans avant. Puis après ça, 3 ans d'hémato-onco. Donc, on fait... parce que je pense que juste la pédiatrie, c'est plus petit, là. Donc, on fait les deux de façon combinée. Une fois que tu as fini, bon, évidemment, les hémato-onco-pédiatriques, il y en a juste dans 4 centres au Québec et qui sont tous des centres universitaires. Donc, il faut faire une formation complémentaire pour pouvoir travailler. Ça, c'est comme, tu peux pas passer à côté, finalement.
Vous
donc,
êtes obligé de faire un fellowship après le 3e.
Oui, absolument, parce que tu peux pas être engagé nulle part sinon. Donc, c'est Sainte-Justine, c'est Québec, c'est McGill, puis c'est à Sherbrooke que tu peux travailler. Donc, la formation complémentaire, bien, les gens la font souvent dans une passion qu'ils ont eue dans leurs 3 ans. Donc, si tu as une passion à leucémie, tu peux faire 1-2 ans de leucémie. Si tu veux faire de la greffe de moelle osseuse, tu vas faire ta greffe de moelle osseuse. Moi, j'ai fait en trouble de la coagulation, donc en hémophilie, maladie, trouble de la coagulation. Et donc, après ça, notre pratique, je pense que ça dépend un peu de l'hôpital où tu travailles. Comme nous, au Children's, on n'est pas un très gros centre à comparer à d'autres centres. Donc, on fait quand même de tout. Donc, je m'occupe de patients qui ont autant des maladies hématologiques que oncologiques. Mais je suis spécialisée en troubles de la coagulation. Donc, toute la clinique d'hémophilie, c'est vraiment moi qui m'en occupe. Donc, j'ai une collègue qui est spécialisée par exemple, en tumeurs cérébrales. Donc, elle va voir d'autres genres de patients, mais les tumeurs cérébrales, c'est elle qui s'en occupe. Il y a des centres qui sont plus gros qu'eux vont vraiment se diviser. Donc, par exemple, à SickKid, l'hématologie et l'oncologie, une fois que tu as fini ta formation, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Puis des gens peuvent être spécialisés, par exemple, en sarcome, puis ne faire que des sarcomes, puis même pas voir les autres genres de tumeurs. Fait que ça dépend vraiment du centre où tu es. Moi, j'aime travailler dans un centre de la grosseur que je suis parce que ça me permet de tout faire. Puis j'aime vraiment tout. Puis je serais triste de dire, oh, faut que je délaisse telle chose puis que je me concentre juste sur une. Mais je dirais que la tendance s'en va plus vers la surspécialisation puis avoir vraiment des gens qui focusent sur un domaine plus particulier.
Ça, je pense que c'est le cas dans pas mal tout maintenant.
Oui.
Puis de quoi a l'air votre quotidien, un peu votre semaine typique à l'hôpital?
Donc, on a comme 2-3 grosses différences de semaines. En fait, la principale, c'est cet étalage. Donc, quand on est à l'étage, évidemment, on a un étage de 12 lits. Fait qu'on a des patients qui sont hospitalisés pour leur chimio, nouveau diagnostic, complications. On a habituellement, on a 2 lits de greffe. Donc, des fois, ils sont occupés par des patients qui sont en greffe, mais parfois, pas non plus, là. Puis, on s'occupe des consultations, donc les appels qu'on a pour nouveaux cancers, anémie, des choses comme ça. Fait que ça, c'est quand même, je dirais, nos grosses semaines occupées où que, on n'a pas tout le temps des résidents. En fait, on n'a pas souvent des résidents. Puis, on avait avant beaucoup de fellows, puis là, on en a presque plus cette année. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on est souvent tout seul avec les patients et les consultations. Fait que ça, c'est des semaines qui sont assez occupées. Sinon, on a la clinique. Donc, quand on n'est pas à l'étage, on est à la clinique où notre manière qu'on fonctionne, nous, c'est que le matin, on a des patients plus oncologiques qui vont venir pour leur suivi, transfusion, antibiotiques, ces choses-là. Et l'après-midi, on a des cliniques spécialisées comme ma clinique d'hémophilie, une clinique d'anémie falciforme, une clinique de suivi de patients qui ont fini leur traitement. Donc, ça dépend de comment on est, comment il y a de monde en congé. On fait quelques cliniques dans la semaine. Et puis, l'autre tâche que moi, j'ai, mais c'est pas tout le monde qui fait, c'est aussi je fais du laboratoire. Donc, regarder les frottis au laboratoire, les aspirations de moelle osseuse, les liquides, ces choses-là. Donc, ça, il y en a qui sont vraiment plus formés oncologiques dans mon département qui vont pas faire cette partie-là parce qu'il faut vraiment avoir eu la formation plus aussi hémato là, qu'on a quand on est formé au Québec. Moi, je fais ça aussi.
Ah, c'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait cet aspect-là de la pratique aussi en jeu.
Oui, puis je pense que c'est une des choses qui est vraiment intéressante dans notre pratique. C'est par exemple, tu peux voir un patient à l'urgence pour X problème, puis là, tu demandes une formule sanguine, tu regardes les résultats, mais tu vas la voir après avec tes yeux. Ouais, puis là, tu peux faire le diagnostic toi-même, tu vois les blasts, tu sais que c'est une leucémie, tu vois telle autre, une autre chose, puis tu dis, ah, OK, je pense que ça va être ça, le diagnostic. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir tout mettre ensemble, puis je trouve qu'on a une partie un peu investigateur, dans le sens que on part, on demande nos labs, on va les voir, on fait notre diagnostic, on va voir les familles après, on explique qu'est-ce qu'on a trouvé. Fait que c'est vraiment une belle combinaison de tout, finalement.
Mm-hmm. Puis, mettons, hémophilie, t'sais, votre clinique, c'est quel âge à peu près, t'sais, quel groupe d'âge que vous voyez le plus?
Hein? Comme je suis pédiatre, c'est tous les enfants de moins de 18 ans. Mais je dirais que, t'sais, habituellement, les hémophiles, s'ils ne sont pas diagnostiqués à la naissance parce qu'il y a une histoire familiale, ce qui est quand même une grosse proportion d'enfants qui vont être diagnostiqués pas longtemps après la naissance parce que les mères savent qu'ils sont porteuses, parce que leur père était hémophile ou parce qu'ils ont un frère hémophile. La majorité, sinon, sont diagnostiqués surtout vers l'âge de 1 an. Quand ils commencent à marcher, ils tombent, sont pleines bleues. Des fois un peu avant, des fois un peu après. Donc, tu sais, on a de tous les âges qui viennent nous voir.
Pour les suivis, là, puis tout.
Ah, oui. on va l'arrêter.
Puis, est-ce que vous les suivez? Genre, est-ce qu'il y a un enfant que vous voyez à 1 an, vous suivez jusqu'à l'an qu'il a 18 ans?
Oui. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun à la clinique où je travaille, c'est que comme au Children, on est aussi à la même place qu'adultes. On fait une clinique conjointe, en fait. Donc, on fait la clinique ensemble. Moi, je vois les enfants. Ma collègue qui est hématologue adulte, spécialisée en hémophilie, voit les adultes. Fait que des fois, on a des frères, tu sais, qu'il y en a un qui est encore d'âge pédiatrique, l'autre qui est d'âge adulte. Ou des fois, une mère qui est porteuse, qui a besoin d'être vue, puis son enfant a besoin d'être vu, on les voit en même temps. On a une infirmière qui est responsable du programme qui est là aussi. Puis, on a une physiothérapeute qui travaille dans notre équipe qui est là à toutes les cliniques aussi pour évaluer la fonction musculaire puis les articulations. Fait qu'on a vraiment un beau travail d'équipe. Fait que c'est vraiment le fun. Puis,
c'est super bon pour la continuité des soins.
Ouais,
j'ai l'impression dans beaucoup de domaines en pédiatrie, une fois que les enfants tournent adultes, sont un peu laissés.
Vraiment pas. C'est vraiment une belle continuité de soins. Puis, vraiment une belle collaboration aussi parce que, ben, tu sais, c'est justement des fois la mère est enceinte, donc c'est ma collègue qui va l'avoir organisé l'accouchement. C'est elle qui a les contacts en obstétrique, tu sais, pour s'assurer que ce soit qu'elle soit accouchée à notre hôpital parce qu'on les laisse pas accoucher ailleurs, dans un centre qui n'est pas d'hémophilie, si c'est à risque que l'enfant soit hémophile. Moi, je vais faire les prescriptions pour le bébé, puis une fois que le bébé est né, on m'appelle. Fait qu'on travaille vraiment tout le monde ensemble pour une belle coordination des soins. Puis en général aussi, le domaine de l'hémophilie au Canada, c'est vraiment le fun. Là. Je vais pas prêcher par ma paroisse, mais c'est vraiment le fun. Les gens sont tellement gentils. On n'est pas tant que ça à faire ça au Canada. Donc, je pourrais te nommer les collègues dans chaque hôpital qui a des centres d'hémophilie qui en font, parce qu'au Québec, on est aussi juste 4 centres d'hémophilie. Mais c'est la même chose au Canada. Il y a vraiment des centres qui sont dédiés à l'hémophilie. Puis à chaque année, on a des réunions annuelles, on a beaucoup de collaborations, des guidelines canadiens qui sont écrits. Fait que c'est vraiment un milieu qui est petit, mais qui est vraiment super intéressant à travailler.
Puis assez de cas pour que vous ayez comme c'est ça une clinique au moins par semaine.
Oui, mais je fais pas juste l'hémophilie, dans le sens que je vais voir tous les patients qui sont référés pour segment de nez, que le médecin trouve que le segment de nez est un peu trop d'habitude ou plus de bleu que d'habitude ou des choses comme ça. Fait que je vois beaucoup de patients qui finalement ont pas trop de la coagulation, mais pour faire une investigation approfondie, s'assurer qu'on trouve rien. Donc, j'ai une proportion d'hémophiles, mais une proportion aussi de maladies de von Willebrand, de dysfonction plaquettaire, d'autres choses. Puis plein de patients que je vois, puis finalement, ben je leur dis, vous avez rien. Tournez pas votre médecin.
Bonne nouvelle.
Puis, y a-t-il un aspect de votre pratique que vous trouvez un peu plus difficile, que vous aimez un peu moins?
C'est sûr. Même si on adore notre travail, il y a toujours des choses qui sont plus difficiles. De mon côté, ce que je trouve plus difficile, c'est les rechutes. Donc, annoncer à une famille que leur enfant... Un cancer, c'est difficile, mais on dirait qu'il y a toujours l'espoir. Tu sais, la majorité des cancers pédiatriques, on est capable de guérir. Donc, il y a toujours les bons... dans beaucoup de cas, des bons chiffres à donner ou de l'espoir à donner à la famille. Mais quand il faut annoncer que la maladie est revenue, je trouve ça beaucoup plus difficile. Un, parce que tu as établi un contact avec la famille aussi, puis avec l'enfant. Des fois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu les suis, cette famille-là. Donc, c'est pas la même relation déjà que quand tu les vois de nouveau à l'urgence, que tu les connais pas. Aussi, ben les enfants puis les parents, ils se disent « Oh mon Dieu, on a tout fait ça, puis il faut recommencer.
»
C'est vraiment souvent un gros découragement. Puis ils savent aussi que les chances de guérison sont plus aussi bonnes qu'elles étaient au diagnostic parce que la maladie est revenue. Donc, tout ça fait que c'est pas des discussions faciles. Puis c'est, je dis, moi, je trouve que c'est la partie la le plus difficile de mon travail, d'avoir annoncé ça à des enfants, surtout des enfants qui sont en âge de comprendre, adolescents, tout ça. Puis il y a des parents aussi, c'est le côté difficile.
Puis qu'est-ce qui vous permet de, tu sais, de rester la tête, genre sortie de l'eau par rapport à ça? Je pense que c'est facile pour beaucoup de gens de se sentir envahi par les émotions, puis juste trouver ça vraiment lourd, tout ça. Qu'est-ce qui vous permet de rester un peu plus, désolé l'expression, mais grounded?
Bon, on a beaucoup de réunions multidisciplinaires. Donc, à chaque semaine, on a une réunion avec travailleurs sociaux, psychologues, les infirmières du programme. Là, je vais peut-être oublier des gens, puis je n'aurai pas l'air gentil. Mais en tout cas, tous les gens de l'équipe multidisciplinaire qui travaillent avec nous, soins palliatifs. Donc, à chaque semaine, on va discuter soit les nouveaux diagnostics, mais aussi tous les patients qui sont en rechute, tous les patients qui vont moins bien. Puis, tu sais, on sent qu'on a un bon support là, de tout aussi les autres membres de l'équipe. Il y a beaucoup de nos enfants qui vont être suivis en psychologie, que les psychologues ils vont adapter le nombre de sessions qu'ils vont avoir avec les enfants dans une situation comme ça, où ils vont avoir aussi un support qui va venir d'ailleurs. Donc ça l'aide aussi. Puis de savoir qu'on travaille en équipe, je veux dire, je n'ai pas l'impression d'être la seule personne qui prend non plus la décision pour mes patients. On discute tout le temps des plans de traitement, des enfants en rechute ou des nouveaux diagnostics avec les autres collègues oncologues dans les tumor boards. Donc, on sent aussi qu'on a un support, que ce n'est pas comme juste notre décision, mais c'est la décision d'un groupe, c'est la décision de plusieurs spécialistes. Fait que ça l'aide aussi, je pense, à se conforter dans les choix de traitement qu'on fait, puis de se dire que, bon, tu sais, c'est la maladie revenue, c'est pas de notre faute, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, c'est la maladie, malheureusement, qui fait ça. Ouais.
Peut-être la personne qui relaie le message, c'est quand même, c'est un gros rôle, là, quand même. Puis tu sais, souvent, c'est ça, en pédiatrie, déjà, ça tombe comme plus... Dans l'image des gens, c'est comme plus difficile, mais là, en plus, quand on parle comme de cancer, souvent, c'est encore plus frappant pour les familles, j'ai l'impression.
Oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent que... Ils se disent, comment tu fais pour faire ça? Ça doit tellement être difficile. Ben, personnellement, je trouve pas, parce que la majorité du temps, c'est que ça... Tu sais, nos journées, c'est oui, on annonce des diagnostics, mais pas... Tu sais, à plus finir dans une journée, là, c'est une fois de temps en temps, quand on est à l'étage, quand
c'est
on est
pas juste ça.
On peut pas juste annoncer des mauvaises nouvelles, là. Ouais. Puis quand on voit les enfants qui sont là pour leur traitement, la plupart n'ont pas l'air malades. Ils sont là, puis ils sont bien, ils viennent jouer à la clinique, ils sont heureux, puis ils font leur activité. Fait que je pense que c'est ça qui nous garde aussi, de bonne humeur, puis content de faire notre travail, parce qu'on sent pas que c'est déprimant. Tu sais, les gens n'ont pas l'impression que c'est un job déprimante, mais c'est pas déprimant, là.
Puis, on dit souvent pour choisir une spécialité, il faut qu'on aime un peu le bread and butter, là, le quotidien. C'est quoi, vous pensez, qui est ce bread and butter-là pour il manque?
C'est une combinaison de beaucoup de choses parce qu'on fait vraiment plein de choses, comme vous pouvez voir. Je pense qu'il faut quand même aimer travailler avec les enfants parce que ils sont sous stéroïdes, là, ils ne sont pas toujours de bonne humeur. On peut se faire kicker, mordre, il faut être prête à tout. Je pense qu'il faut... Il y a une certaine routine à un moment donné, comme dans n'importe quel travail. Puis il faut être prêt à aimer faire cette routine-là, à voir des gens, à les examiner, à interpréter leurs résultats, à décider de la chimio. C'est sûr que c'est ce qu'on fait. Si c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou qui t'appelle, ben tu vas trouver le temps long, là,
Y a-t-il des conditions qui reviennent plus fréquemment, comme des consultes que vous avez quasiment à chaque garde?
Il y a beaucoup de choses inutiles qu'on a souvent comme question, genre des neutrophiles qui sont un petit peu bas ou des anémies qui sont légères. Fait qu'il y a des choses que vraiment, je dirais pas naissance sous nos gardes, mais qu'on reçoit comme consultation c'est comme ça, c'est un peu plus bas que la normale, mais ça n'a aucun impact sur l'enfant, tout ça. Je pense qu'on a quand même beaucoup de ces références-là qui sont moins intéressantes, mais on a aussi beaucoup d'anémies qu'on investigue, puis oh mon Dieu, oui, on trouve telle chose, puis c'est vraiment comme passionnant de juste passer de, OK, qu'est-ce que ça pourrait être, à faire toutes les étapes pour arriver au diagnostic final. Pour ce qui est des cancers, c'est très variable. Des fois, on a des choses tellement... rare, là, que tu sais, à peine si tu as déjà entendu ça dans ta vie, que faut que tu passes 3 semaines à lire sur la condition pour savoir quoi faire avec ton patient. Puis au contraire, tu vas avoir des leucémies, que bon, on en a tellement des leucémies que c'est facile. Tu sais, t'as une garde, t'as de leucémie, bon, c'est habituellement, pas toujours, mais habituellement, c'est comme plus quelque chose de régulier, puis avec lequel on est habitué de gérer.
J'ai l'impression que vu que c'est vaste, mais à la fois, il y a beaucoup de condition, c'est ça, rare, comme vous dites. Ça doit quand même être un bon comme challenge intellectuel là, comme spécialité.
Oui, exactement. Puis il y a quand même aussi les urgences, tu sais. Je veux dire, un enfant de 2 ans qui arrive avec une grosse masse médicinale, qui n'est pas capable de respirer, il faut qu'il aille aux soins intensifs, il faut que tu fasses le diagnostic, mais tu ne peux pas l'endormir parce qu'il ne peut pas se coucher, puis il ne peut pas être endormi parce qu'il y a la grosse masse qui pousse là-dessus. Puis minuit le soir, ben tu sais, il faut que tu prennes des bonnes décisions, puis tu saches quoi faire pour l'enfant, pour le traiter, puis être capable de, un, faire le diagnostic pour pouvoir le traiter adéquatement. Des situations aussi des leucémies qui arrivent avec des globules blancs à 300, 500 000, avec les complications que ça peut arriver. Donc, il y a quand même des moments qui sont stressants, qui sont challengeants parce que la vie du patient peut être en danger puis il faut faire les bonnes décisions rapidement.
C'est bon. Je dirais que j'aurais pas pensé qu'il y avait tant d'urgence, mais c'est, ouais, c'est, il y a quand même ce côté-là que vous retrouvez dans votre travail de petite adrénaline, on peut dire.
Oui, exactement. Toujours la soirée, cette adrénaline-là.
Toujours la soirée. Entre 10h et 1h du matin.
Exactement. Quand il n'y a personne d'autre que toi à l'hôpital.
Ça fait voir être capable de quelqu'un qui garde son calme malgré tout dans des situations de stress pour être capable de prendre des décisions éclairées.
Oui, exactement. Puis de faire les bons diagnostics aussi, par exemple, il y a des sortes de leucémies qui le traitement est complètement différent. Il faut qu'il soit commencé dès qu'on soupçonne cette leucémie-là. Donc, quand tu regardes le frottis, puis là, il faut que tu saches si tu n'as pas d'autres tests qui sont disponibles parce que justement, c'est le soir, il n'y a personne d'autre qui peut faire les autres tests qui vont confirmer ce qui est ton hypothèse. Donc, il faut quand même que tu sois. Oui, c'est ça.
Sois confiant.
Prendre les bonnes décisions au bon moment.
Avez-vous des gardes occupés pas mal?
C'est vraiment variable, honnêtement. Nous, on reçoit aussi les appels des parents. C'est peut-être pas une spécialité, beaucoup de spécialités qui font comme ça, mais nos patients oncologiques ou sous chimio, ils ont accès à nous appeler n'importe quand. fait qu'on a quand même beaucoup d'appels des parents qu'on gère. La plupart du temps, je dirais qu'ils nous appellent parce qu'ils font de la fièvre, on les envoie à l'urgence, puis après ça, on a des retours de l'urgence. Notre étage, c'est variable. Si on a des patients qui sont en greffe, ça peut être, ils peuvent être malades, occupés. Des fois, c'est vraiment niveau soins intensifs, mais pré-soins intensifs. Là, souvent, quand on va aux soins parce qu'on dit qu'on a un patient qu'il faut qu'il soit transféré, ils savent qu'il va être transféré. T'sais. Ils viennent d'évaluer, mais en sachant qu'il va venir parce que c'est. On s'occupe de patients qui sont parfois vraiment très malades à notre étage. Donc, c'est ça, appel des parents, consultation, nouveau diagnostic, notre étage. Fait que c'est variable dépendamment de qu'est-ce qui rentre à l'urgence puis comment qu'on a de patients hospitalisés. Ça peut être occupé comme on peut avoir des gardes tranquilles.
En regardant en arrière puis tout le parcours que vous avez fait, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées? Vous feriez exactement la même chose?
Non, je pense pas que j'aurais rien changé. Ouais,
c'est un bon signe.
Pas que j'aurais rien changé. En fait, c'est ça, j'avais un peu hésité quand j'ai eu la chance de faire mon fellow en hémato-onco, d'aller à Sainte-Justine ou d'aller au Children's. Puis j'étais venue visiter les deux, puis j'étais bien embêtée par l'anglais parce que je parlais pas très bien anglais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, il me semble que ça va être difficile. Est-ce que je fais vraiment ça? Puis finalement, j'avais décidé de plonger. Là, justement, l'hématologue avec qui je travaillais à Sherbrooke, elle venait faire aussi des journées au Children's. Puis elle disait, non, tu vas être capable, vas-y, ça va bien aller. Puis finalement, je suis restée là. J'ai fait mon fellow. Puis ils m'ont gardée après. Fait que ça a été une bonne décision.
Puis, au final, à McGill, la moitié des patients presque sont francophones. Là, en tout cas, nous, non?
Oui, les patients sont francophones. Il y a beaucoup de personnel de la santé, d'infirmières, de pharmaciens, d'autres médecins avec qui je travaille qui sont francophones. Donc, je pense que je parle autant français, sinon plus qu'anglais dans une journée parce que je parle pas anglais aux gens qui sont francophones. Non, on se parle en français.
Puis, est-ce qu'il y a comme des choses que vous aimez dire pour attirer les étudiants en hémato-oncologie? Genre, est-ce qu'il y a des caractéristiques en particulier que vous êtes comme ça pourrait attirer la nouvelle génération à venir?
Bien, je pense que c'est vraiment la combinaison de tout ce qui peut être fait. Je pense, comme tu disais tantôt, j'avais pas l'idée qu'on faisait du laboratoire. Bien, des fois, ça fait du bien de se dire, hey, j'ai une journée de laboratoire. Tu sais, je suis pas de patient, j'ai mes lames, je vais à mon rythme. Tu sais, ça casse le bide. Tu sais, ça casse le bide de toujours voir un patient après l'autre puis de voir. Je pense que la combinaison de tout ça fait que ça fait un bon équilibre. Oui, on a des semaines super chargées avec émotionnel, avec des diagnostics annoncés, des choses comme ça, mais on a aussi des semaines qui sont. Je ne devrais pas dire relax parce que c'est pas le mot, mais justement, le beat est différent, que tu peux faire d'autres choses. C'est beaucoup axé sur la recherche aussi, évidemment, parce qu'avec on veut toujours donner le meilleur à nos patients. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le Children Oncology Group, qui regroupe tous les hôpitaux en Amérique du Nord qui traitent les enfants avec cancer. Donc, on a des protocoles de recherche. Il y a vraiment beaucoup à faire de ce côté-là. Quelqu'un qui est intéressé par la recherche peut monter ou vouloir s'impliquer dans ce groupe-là ou aussi faire ses propres choses, si quelqu'un a intéressé à faire ses propres expérimentations, si on veut, mais partir ses protocoles de recherche ou travailler avec l'industrie pharmaceutique pour ça. Donc, c'est vraiment plein de possibilités, je pense. Moi, j'aime toujours le côté investigateur, de dire tu pars avec ton patient, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais à la fin, tu es capable de trouver le diagnostic parce que, justement, tu as demandé les bons tests, tu as regardé tes lames au microscope, tu sais où tu t'en vas, puis tu arrives avec ton diagnostic, tu sais le traitement. Fait que tu as comme vu ton patient de A à Z. Et je pense que ça, c'est vraiment un côté qui est le fun de notre pratique.
Ouais. Petit détective, mais là aussi, tu sais, qu'il y a des traitements efficaces.
Oui, c'est ça, des traitements efficaces. Puis on... Maintenant, le taux de succès de guérison pour les leucémies classiques de l'enfant, là, c'est 95 % de guérison. Fait que, souvent, ce n'est pas bon. Comme l'image qu'on a. Oui, c'est sûr que ce n'est pas toutes les leucémies qui sont les leucémies classiques. Il y a d'autres genres. Mais en général, si je regarde par rapport à l'oncologie chez l'adulte, nos taux de guérison sont beaucoup mieux. On a beaucoup plus d'enfants qui survivent. Donc, ça, c'est quand même un bon côté à notre pratique. C'est des fois difficile, l'annonce, difficile de voir des enfants malades, mais au bout de la ligne, on en a tellement qui guérissent, on en a qui reviennent, puis qui étudient en médecine, on en a qui reviennent faire des stages avec nous après. Fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait une différence dans la vie des gens.
Puis la différence de pronostic, diriez-vous que c'est à cause justement qu'il y a beaucoup de recherches en pédiatrie, ou c'est peut-être un peu les deux aussi, mais que, tu sais, les enfants sont plus capables de se remettre de certaines conditions.
Oui, ils tolèrent mieux la chimio habituellement que les adultes, mais oui, il y a beaucoup de recherches. C'est sûr que les cancers qui sont les plus communs, bien, c'est là que les avancées ont été les plus grandes. Comme les leucémies, c'est le type de cancer qui est le plus fréquent chez les enfants. Il y a eu un plus gros bassin de patients chez qui des traitements ont pu être tentés. Il y a eu vraiment une avancée qui était plus grande si tu compares à d'autres tumeurs, disons, qui sont plus rares, qu'au total, il va y avoir beaucoup moins d'enfants qui vont être affectés. Donc, ça peut prendre plus, peut-être, de temps ou de recherche avant que le pronostic de ces enfants-là change drastiquement. Mais en général, pour toutes les tumeurs pédiatriques, là, la majorité, il y en a encore pour lesquelles on n'a pas de traitement à offrir. C'est malheureux. Il y a quand même certaines tumeurs pour lesquelles on n'a pas vraiment de traitement qui vont être curatifs. Oui, qui vont prolonger la vie, mais pas qui vont être curatifs. Mais la plupart, sinon, on a quand même des choses à offrir. Puis un bon taux de guérison chez plusieurs tumeurs.
Puis y a-t-il des domaines qui sont particulièrement en effervescence au niveau de la recherche en ce moment dans l'hémato-onco?
Vraiment la médecine de précision, on en entend beaucoup parler, mais plus avec l'immunothérapie, un peu changé de la chimiothérapie qui tue à peu près tout sur son passage, toutes les cellules qu'elle voit, essayer de se concentrer sur des médicaments qui sont plus ciblés, qui vont cibler des récepteurs à la surface des cellules, qui vont cibler les cellules anormales, puis pas toucher à tout le reste. Donc, c'est ce qu'on voit en leucémie, ce qui s'en vient en lymphome, en plein d'autres genres de tumeurs aussi pour le futur.
Ça va vraiment changer de traitement, ça. Les effets secondaires, tout ça, ça va être vraiment...
Ouais. Pour le moment, c'est encore beaucoup combinaison chimio avec immunothérapie, mais qui sait pour le futur si ça va prendre une place encore plus importante. Puis les autres traitements qui étaient plus... qu'on utilisait il y a plusieurs années vont peut-être être un petit peu moins à l'avant-plan, disons.
Puis vous disiez tantôt que c'est ça, il y a les quatre gros centres au Québec où il y a les hémato-oncologues, mais... Est-ce que vous pensez que dans le futur, ça pourrait être possible pour quelqu'un, mettons, qui voudrait pratiquer plus en centre éloigné ou en plus petit milieu?
Probablement comme en étant, mais il y en a déjà, je pense à Saguenay, là, où il y a un pédiatre là-bas qui a fait une formation en hémato puis qui voit des patients, qui est affilié à Québec. Donc, je pense que c'est plutôt une affiliation que vraiment dire qu'il va avoir un centre. Parce qu'il faut quand même que tu aies un certain nombre de patients, un débit pour pouvoir faire partie du Children Oncology Group. Il faut que tu sois capable de mettre un nombre X de patients par année sous étude. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas ce volume-là, ben, tu ne seras pas capable d'ouvrir des études. Puis pour les patients, ben, ce n'est pas intéressant s'il y a une étude qui est ouverte, qui est disponible pour ton type de tumeur, de pas avoir accès à ces traitements-là. Donc, je pense que c'est plus comme des centres satellites, je dirais, que vraiment des centres primaires.
vous dites que c'est le Children Association, c'est pour genre toute l'Amérique du Nord.
Ouais.
Est-ce qu'il y a parfois il y a plus de difficultés d'avoir des traitements au Canada versus les États-Unis ou c'est pas mal équivalent ça?
Ça peut arriver parfois que certains médicaments c'est plus long avant d'avoir accès au Canada par rapport aux États-Unis. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà vu de la frustration par rapport aux parents? Parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui doivent aller voir en ligne et tout ça.
S'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aux États-Unis pour, par exemple, je dirais un patient en rechute, ben, t'sais, on peut les envoyer là-bas. Des fois, ça va arriver qu'on les envoie dans un centre particulier qui vont prendre des patients internationaux. Donc, c'est arrivé comme qu'on envoie des patients à ces endroits-là. Sinon, je dirais, ben moi, pour mon côté hémophilie, ben, t'sais, il y a une molécule vraiment révolutionnaire qui est sortie il y a quelques années qui permet de traiter sous-cutané au lieu d'intraveineux les patients. Puis au lieu d'intraveineux comme à toutes les deux jours, c'est sous-cutané une fois par deux semaines. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Là, c'est comme, parce que les parents apprennent, hein, ils piquent leur enfant eux-mêmes intraveineux, ils apprennent à mettre un papillon, à donner leur traitement intraveineux. Fait que c'est un gros apprentissage quand les enfants sont... son bébé, là, parce que, évidemment, sont potelés. Puis même les infirmières, c'est difficile. Fait que pour les parents, encore plus.
Ouais.
Fait que c'est vraiment... c'est un sujet un peu complexe, mais ça pour dire que ça a été accepté dans plein de places dans le monde avant que le Canada l'autorise.
Mm.
Puis c'était, un très gros niveau de frustration de, tu sais, savoir que ce médicament-là, il est disponible dans plein d'autres pays, mais pas disponible chez nous. Puis la raison, c'était juste le coût, là. C'était que c'était plus cher que les médicaments réguliers. Ça a quand même monté beaucoup de frustration, je dirais, chez les parents jusqu'à ce que finalement ça soit autorisé.
J'imagine. Là, c'est autorisé maintenant.
Oui, c'est autorisé, mais comme Emma Québec n'est pas la même chose que CBS, ça a été autorisé parce que ces médicaments-là, c'est considéré comme des produits de remplacement du sang. Donc, c'est pas géré par des pharmacies, c'est géré par Emma Québec puis CBS. Avant, c'était une entité, mais après tout le sang contaminé, là, ça s'est séparé en deux. Fait que tout le reste du Canada qui a CBS, puis Québec, on a Emma Québec. Donc, il y a eu une différence aussi entre quand ça a été accepté par CBS puis ça a été accepté par Emma Québec. Fait que ça a aussi fait des mécontents au Québec.
Ah, c'est ça! Oh là là! Ouais.
Ça doit être difficile de gérer ça dans le bureau parce que ça doit aussi vous procurer des frustrations, tu sais, de ne pas pouvoir l'offrir. Fait que là, c'est...
Oui, exactement. Tu sais que c'est un traitement qui est disponible, puis les familles veulent juste avoir ce traitement-là, puis je peux pas le...
Je comprends.
Ça va venir un jour, on va écrire des lettres. C'est ça que les gens ont fait, des pétitions, des ci, des ça, puis à un moment donné, ça finit par être disponible.
Finalement. Puis tu sais, au contraire, là, vous disiez tantôt qu'il y avait comme des fois des projets de recherche que les gens pouvaient avoir dans les grands centres. Ça doit vraiment être genre stimulant de voir, mettons, un essai, puis là, il y a des patients qui le font, puis là, ça fonctionne. Avez-vous été témoin de ça?
Bien, pas vraiment comme au point de vue local, mais plus au point de vue, justement, avec les groupes, là, le Children Oncology Group, où il y a des médicaments vraiment qui ont changé la manière complètement qu'on traite là, certaines tumeurs, ou que ça a vraiment augmenté le pronostic. Alors ça, c'est... Oui, ça a été vu. De notre côté, à McGill, on a Dr. Jabadeau qui travaille vraiment fort sur les tumeurs cérébrales, qui a fait plein de belles découvertes là-dessus. C'est sûr que moi, je suis pas du côté laboratoire, je suis pas du côté recherche, mais, tu sais, pour quelqu'un qui a envie de se pousser dans un domaine, il y a vraiment de la place pour ça, là, oui.
Puis comment qu'on se garde toujours à jour avec tous ces nouveaux arrivés-là, tous ces nouveaux traitements-là?
Ben, lire. Aller aux conférences. Puis, c'est sûr qu'avec le Children Oncology Group, l'avantage, c'est qu'à toutes les années, il y a des réunions, il y a tous les résultats des études qui sont en cours, ou, tu sais, les résultats préliminaires qu'ils peuvent avoir qui vont sortir, qui sont disponibles, les résultats des études fermées, quand ils sont disponibles, on a accès aussi. Donc, ça l'aide, mais je dirais... Il y a des choses, des tumeurs qu'on voit tellement pas souvent que t'as pas le choix. Là. C'est quand, je disais tantôt, quand t'en as une qui arrive puis que ça fait vraiment longtemps que t'as pas vu ça, ben tu ressors, tu refais une revue de littérature puis tu contacts. Là. Je pense que aussi, je sais pas comment c'est dans d'autres spécialités parce que je connais pas ça, évidemment, mais c'est vraiment très convivial. Par exemple, quelqu'un que je diagnostique avec une sorte de sarcome qui est difficile à traiter, je peux emailer n'importe qui au COG ou au CKID en disant j'ai tel patient avec telle tumeur, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez? Puis les gens répondent, tu sais, puis sont vraiment souvent, donne-moi des nouvelles, tu me diras comment ton patient va, puis tu sais, si tu réécris après, ils sont toujours heureux de t'aider. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide au sein même de notre hôpital, mais aussi la grande famille des gens qui font ça comme métier.
C'est vraiment bien.
Je pense que j'ai entendu ça beaucoup en pédiatrie en général, tu sais, versus
le plus de travail d'équipe.
Milieu adulte, oui, les gens sont gentils quand ils vont en pédiatrie, souvent, j'ai l'impression. Puis...
ouais. Puis, sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil pour les étudiants qui commencent parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, qui hésitent dans plein de domaines?
Je pense que c'est vraiment quand tu fais un stage d'en profiter. Moi, je dirais que si tu te fais un stage puis tu t'intéresses pas, tu survoles ce que tu fais, ça va pas te donner une idée tant que ça de ce que la spécialité peut avoir l'air. Je pense que pour en profiter, il faut qu'un peu tu comprennes les pathologies que tu vas voir pendant la journée. Il faut que tu comprennes le raisonnement du médecin avec qui tu es, parce qu'ils vont pas toujours avoir le temps de t'expliquer ou de tout te faire un gros enseignement sur les cas. Puis j'ai l'impression des fois qu'on fait des stages puis que tu vois les pathologies, mais tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Mm-hmm. Puis tu n'as aucune idée de ce que le traitement qu'ils donnent, que ça veut dire quoi. Puis toi, dans le fond, tu te concentres sur poser les mêmes questions puis faire ton examen physique, mais que le reste, je sais pas, c'est comme trop poussé pour toi. Fait que je pense qu'il faut essayer de au moins cibler quelque chose, quelques petites choses qui sont assez fréquentes dans ce domaine-là pour lire là-dessus quand on fait des stages. Déjà, si on est capable de lire avant, d'arriver un peu informé, c'est toujours mieux. Puis au moins, quand tu sais qu'est-ce que tu vas voir, quand tu as une idée des traitements, bien, ça l'aide à poser des questions, à avoir l'air intéressé. Ça t'aide pour tes évaluations aussi, mais je pense que ça l'aide à vraiment plus voir qu'est-ce que les médecins dans cette spécialité-là font. Mm. Puis de ne pas se gêner d'écrire aux gens qui font ça, de venir voir, de poser des questions. Moi, je sais que quand je faisais ça, j'avais comme peur de dire que je vais faire de l'hémato en cours. Je me sens que je vais avoir l'air, tu sais, comme fatigante. Tu sais, je vais avoir l'air de la fille, tu sais, qui veut, « Ah oui, moi, je veux vraiment ça, je veux faire ça. » Tu sais, j'étais comme gênée, mais au contraire, les gens sont contents quand que tu viens en stage puis tu dis, hey, « moi, ça m'intéresse. » Ah oui, tu sais, parce qu'on n'en a pas souvent des gens qui viennent puis que ça les intéresse de faire ça. Puis souvent, on a plus comme tendance à dire, « OK, bien, tu sais, viens voir telle affaire, c'est intéressant. Viens voir telle chose, à exposer plus les gens quand on sait que ils viennent puis que c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Fait que je pense pas gêner. Si on fait un stage, c'est quelque chose qu'on se dit, hey, j'aurais peut-être envie de faire ça dans la vie, de le dire au patron avec qui on travaille, de dire, je pense que c'est vraiment une spécialité qui m'intéresse. Puis ça va nous permettre, je pense, d'être plus exposés puis de vraiment d'en profiter plus.
Okay. C'est un bon conseil.
Ben oui, merci beaucoup. En tout cas, ça a été
merci.
Super.
Je vous ai convaincu? Peut-être pas.
Okay. On va le considérer.
Mais on a vraiment appris beaucoup. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment plus sur ce domaine-là qu'auparavant. Là. C'est vraiment intéressant.
Mm-hmm. Merci.